Je veux que ça problème que j'élève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Je veux que ça problème que j'élève s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique, y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs flinguent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont pétards par les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS foncent dès une église et cassent.
Je vois des innocents crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Tu t'occupes des enfants au lieu de soigner tes monuments.
Et pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France.
T'as vu la mer que c'est pas une solution de fermer les yeux.
Il faut que je me venge, alors je fais couler l'encre.
Pour qui je vote? Celui qui défend ma cause ou bien un boyau de la route?
À gauche comme à droite, tous la même requête.
On fait flipper la France ici, les poètes contre leurs écrits.
Et dans un style réfléchi, je lève leur main rhétorique.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Frontline 106.3, 106.3.
Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez Frontline sur le 106.3 FM, Radio FPP. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h et aujourd'hui, avant tout, on va s'écouter un petit son de soul, You Stepped Into My Life, un classique de Melba Moore. On viendra ensuite avec une petite chronique sur les faf et les abeilles. Et puis on diffusera un son de l'interview qui avait eu lieu lors de la soirée en soutien à la radio FPP qu'on avait faite avec Aki
à la Gare XP,
à la Gare XP
le 14 juin
le 14 juin dernier, et c'était merveilleux,
c'était fabuleux.
On écoute notre petit son, on revient juste après.
Frontline 106.3.
Yeah.
venez d'écouter You Stepped Into My Life de Melba Moore, un classique. Bon, une petite chronique donc sur que j'ai appelé joliment les faf et les abeilles. Ces derniers jours, on a eu pas mal marre. Il y a eu plusieurs chroniques et plusieurs nouvelles qui ne sont pas juste réservées aux seules personnes qui suivent les polémiques intramédiatiques de petits médias ou de contre-information, mais il s'agit bel et bien d'une attaque plus ou moins frontale, en tout cas à l'heure où on a du Soral, du Dieudonné et du Ayoub qui se font des petits casse-dalles ensemble. Ça fleurtouille et ça, c'est le miel et les abeilles. Donc pour faire un petit panorama rapide du coup de ce qui s'est passé, on ne tend pas ici à faire une chronique exhaustive de tout ce qu'il y a sur la toile, surtout que rien que ce matin par exemple on a appris qu'il y avait un nouveau dossier donc sur Reflex qu'on vous invite à voir sur Ayoub. Voilà, nous on fait plus une espèce de petite synthèse ici juste pour dire que donc ces derniers jours Dieudonné, Soral et compagnie jouent à une espèce de action ou vérité avec Ayoub. Là-dedans, on peut essayer de voir plusieurs choses, plusieurs tentatives. En tout cas, pour ma part, je vois à la fois une espèce de discours sur la vérité avec un grand V que nous servirait de façon assez nonchalante et impartiale les investigations très indépendantes et très personnelles d'Ayoub et Dieudonné, de Soral et Dieudonné sur ce qui s'est passé donc avec la mort de Clément Méric et Troisième Voix. D'autre part, et ça c'est pas de moi, donc une volonté aussi de brouiller les pistes politiques, donc avec un emprunt de termes comme l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. Et pour finir, en fait, faire une espèce de ratatouille médiatique et politique autour de tout ça, donc autour de l'antifascisme, du fascisme, de ce que c'est que des groupes comme Troisième Voix, des gens comme Serge Ayoub et un fait tel que la mort de Clément Méric. Et de finir par non seulement banaliser tout ça, mais aussi dédramatiser finalement la virulence et la violence d'un mec comme Ayoub qui, faut le rappeler, est pas un mec sympa. Donc pour commencer sur la vérité avec un grand V, donc une des forces médiatiques, si on peut dire, des discours de Dieudonné et Soral, comme on a pu voir dans la vidéo qu'il a sortie, Dieudonné, le 5 juillet dernier, il me semble, où il fait un espèce de sketch de mauvais goût qu'on vous invite à voir pour vous en rendre compte de votre propre jugement. Une espèce de vidéo donc où il donne une posture qui se voudrait à l'heure d'analyser les choses de la vulgaire arène politique, donc à peu près impartiale, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire bon voilà, il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé, etc. Donc on va revenir dessus. Donc une espèce d'investigation qui serait alors en quête de vérité, quoi. Une espèce de discours parallèle donc entre la gauche et l'extrême gauche qui serait en train d'avoir très peur et de pleurer tout le temps et les grands médias qui mettraient un espèce de déguisement de Hitler à tout le monde. Dieudonné arrive donc avec un espèce de discours toujours cynique, mais en plus qui se voudrait rassurant vis-à-vis de qui est Serge Ayoub et finalement pas nous en dire grand chose, si ce n'est rien du tout, à part le fait qu'il l'a vu et comme il est noir et qu'il est encore vivant, il serait pas si méchant que ça. Donc ce qui dérange là-dedans, mis à part Dieudonné en lui-même, on va pas vous faire un récapitulatif de qui il est aujourd'hui, on vous invite seulement à aller regarder les sites de camarades comme La Horde, Reflex ou Quartier Libre, qui ont des bons dossiers là-dessus et qui sont plus à même d'en parler. Ce qui dérange donc dans cette façon de dire les choses de Dieudonné et de Soral aussi, qui mélange une espèce de discours sur ce que c'est que la vérité, ce que c'est que finalement dédramatiser les médias, les dépiauter, et puis finalement aller soi-même à l'investigation, aller soi-même à l'interview. Je ne savais pas que Dieudonné était journaliste, encore moins qu'il avait une espèce d'analyse impartiale sur ce que c'est qu'un mec de troisième voie, un mec qui est complètement néo-nazi et qui n'hésite pas à faire des ratonnades. Donc voilà... un discours sur Troisième Voie, sur Serge Ayoub surtout, pour dire que finalement, il a pas très peur, donc encore une espèce de discours aussi sur ce virilisme qui serait, par exemple, une espèce de teinte globale d'Alain Soral. Alain Soral qui, on le sait, a des énormes couilles et serait prêt à péter la gueule à peu près tout le monde. On a pu le voir ou pas, je vous invite à le voir aussi sur le site « Les mots sont importants ». Il y a une petite chronique de Pierre Thévagnan sur les lettres, les mails de menaces d'Alain Soral à Pierre Thévagnan qui est assez illustratrice de ce point-là du personnage. Soral et Dieudonné qui, par ailleurs, tentent du coup aussi, par cette façon de présenter les choses, de brouiller certaines pistes en empruntant à la gauche des termes comme l'anti-impérialisme ou l'anticolonialisme. L'anticolonialisme, pour eux, c'est surtout faire face à l'ennemi obscur, puissant et terrible que seraient les juifs et les francs-maçons. Pour l'extrême droite, il s'agit d'immigration, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme. Il s'agit finalement, pour eux, d'avoir une certaine crédibilité aussi face au quartier populaire, avoir un discours qui serait du coup audible face à l'extrême droite qui est plutôt encore assez inaudible dans les quartiers populaires, donc d'avoir une espèce de frange de marge de manœuvre par rapport au FN, tout en le rejoignant en passant par d'autres moyens. Donc finalement, on voit aussi que ce fricotage entre la vérité avec un grand V, les FAF, Serge Ayoub, Alain Soral et Dieudonné, tout ça, ça nous donne une ratatouille plutôt indigeste. On vous invite à aller voir donc les dossiers assez bien faits de La Horde, donc là plus loin Horde, H-A-O-R-D-E, Réflexe avec un S à la fin et Quartier Libre au pluriel. Qui ont tous trois fait des bons dossiers sur et Dieudonné, et Soral, et Ayoub. On vous invite donc à aller éplucher tout ça et à rester critique et vigilant vis-à-vis de ces odieux personnages.
On va écouter un titre de Marco Polo, c'est en featuring avec Tragédie Kadhafi, Lil Fame d'Emopi, il y a Adrien Nunes et de Delphonic aussi. Le morceau c'est Stand Up, c'est le remix. Et on retrouve ça sur la tape de Marco Polo, Newport Authority 2, qui est sortie cette année-là. Donc on écoute ça tout de suite et on revient juste après.
Frontline 106.3.
Aquatic, how I got it, neurologist can't spot it. When I rhyme like King Tut soon before his flesh rotted. Frank Matthews in rhyme form, Osiris. Verbal, carnivore, we marauders and riders. We the greatest who did it, my cerebral is sick. I clap from a driver's side while I'm steering the whip. The buildings in my hood bleed every time that I spit. Dead G's rise from the grave, nobody raised me. I'm just a boss that's self-made, salute the pedigree. Never old school, just a veteran in perfection. When I spit it like a nigga facing lethal injection. You ain't cut from the same fabric, it's tragic. I ain't got a rhyme, I breathe on the beat, and it's a classic. Lord have mercy, Jesus Christ, but fuck that. I'm a modern day messiah with mics. Master of the flow hard, all I know is to go hard.
You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? Stand up, violate me and you get blamed out. Stand up, violate me and you get blamed out.
Yo.
I rhyme like immortals and titans when I'm writing. Lightning striking the Vatican's church is quite frightening. Sultan of the street, Dalai Lama rap. Queens back in the building where y'all never be at. Yeah, don't stop, get it to this game. I'm committed, I write it and live it. Spit it the most vivid. I am lyricism at its finest, your highness. When I'm rhyming like I'm fighting off 100 lions. Tyrant in defiance who's jumping from Mount Zion. Molecular structure make a swagged out rapper suffer. Bang unexpectedly like meteors over Russia. Immaculate Mac and all black, the villain struck. So no matter what, no matter what, shorty swallowed the molly up, homie, but I ain't mad at her. I damage a Similac rapper who lacks stamina. The generals is live on deck, I see you standing up.
You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out?
They miners on spitting vagina monologue. We the carnivores and monocores. What they rhyming for? Smack a rapper back to BC like a dinosaur. Assassinate tracks like the mob did the Hyman Roth. Sick dialogue, predator rhyme, piranha jaws. Modern day Romans when we crucify you on the cross. Last of a dying breed, a rare species. My solo releases, impeccable theses.
You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? You in the presence of a legend right now, so stand up, stand up. Don't violate, could you get blamed out? Stand up, violate me and you get blamed out. Stand up, violate me and you get blamed out.
Sur Frontline 106.3, donc on a écouté Marco Polo avec le remix de Stand Up, et puis on se met bien avec les petits instrus d'Apollo Brown. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude d'écouter ça sur Frontline.
On se met bien avec de la lourdeur tranquillement derrière les oreilles. On va enchaîner avec un extrait de l'interview qui avait eu lieu donc à la Gare XP, en direct donc de la Gare XP quand on avait fait la fête pour FPP. D'ailleurs, on en profite pour refaire un gros big up à tous ceux qui sont venus, qui ont donné la patte et tout. Il y avait eu donc à cette occasion-là une première partie avec des interviews de différents camarades. Il y avait évidemment les gens de FPP. Il y avait eu un collectif Angle Mort, il y avait eu Madge, il y avait eu L'Envolé, etc. Et là, on va vous passer donc un petit dialogue qu'on avait fait avec les gars de Quartier Libre, donc sur la question de la guerre culturelle. Donc en gros, on avait eu donc un bel exposé de Manu qui était venu nous parler un petit peu de tout ça. On va vous passer l'interview, on reviendra un petit peu dessus juste après.
Ouais, juste à noter que Quartier Libre auront
oui,
une
d'ailleurs,
émission.
Oui, d'ailleurs, c'était un prétexte sur aussi pour vous présenter ça. On aura des invités en moins, donc nous on est un peu vénères, mais c'est mieux ouais. Pour eux. Donc bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Donc Quartier Libre qui vont enfin avoir leur émission sur les ondes de 106.3 FM de FPP. On n'a pas encore le créneau. Dès qu'on a l'info, évidemment, on fera plein de propagande dans ce sens-là. Du coup, voilà, on est très contents. Big up à vous et on va balancer cette petite interview. Du coup, sur notre petite table de la radio Fréquence Paris Pluriel pour une soirée en soutien à cette radio. Et avec nous, ce soir, maintenant, là, on a tout de suite Manu et Mohamed de Quartier Libre. Justement, on va faire une petite transition. On parlait de ce que c'est qu'un média libre, de ce que c'est qu'FPP. On va entrer un peu dans le vif du sujet. Et par ailleurs, c'était pas du tout l'alco qu'on vient d'écouter, hein. C'était encore une fois Philly for Wisdom. On écoutera l'alco tout à l'heure. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Bonsoir Manu.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que tu vas me raconter?
Bah là, on va essayer donc Quartier Libre.
Donc c'est quoi Quartier Libre?
Alors, c'est un petit collectif de militants, intellectuels, journalistes et ainsi de suite qui, depuis quelques années, travaillons à essayer de rénover certains... Allez, on va faire des gros mots, certains concepts politiques. Donc, on avait organisé quelques conférences sur l'extrême droite, les nouveaux visages de l'extrême droite pour dire qu'elle s'était transformée, que certains cadres d'analyse sont plus adéquats pour l'analyser. On avait fait sur les théories du complot... sur l'antisémitisme et autres, et en fait essayer de... Ça va être en lien avec ce qu'on essaie de dire après, c'est que de mener à notre faible échelle une espèce de guerre culturelle face à l'idéologie dominante. Donc dans ce cadre-là, voilà, en frontline, vous nous aviez déjà invité sur les théories du complot. On espère à la rentrée animer une émission, une mensuelle sur FPP. Donc on attend une réponse du conseil d'administration sur notre pilote. Et vous pouvez voir là-dessus. Sinon, je vais juste faire une petite parenthèse.
Il y a un blog aussi, faut
que ça. Oui, préciser. Ah oui, il y a un blog qui marche. Il s'est réveillé alors que c'était un zombie. Donc c'est quartierlibre.wordpress. Et donc là, régulièrement, quasiment quotidiennement, on met des nouveaux posts, des petites vidéos, des textes d'actualité ou des présentations de livres pour aller un peu plus loin, parce que c'est en lien avec ce qu'on va faire dans la présentation après avec Judith et Manu sur justement l'offensive culturelle. Que la gauche a abandonné, la guerre culturelle que la gauche a abandonné, que la droite mène de plein pot et que l'extrême droite tient le haut du pavé sur ce plan. Sinon, juste pour un petit rappel, ça a dû être dit, mais je rappelle, dimanche 23 juin à 15h, normalement c'est place de l'Opéra, manifestation contre l'extrême droite et en hommage à Clément Méric. Donc normalement, il y aura un gros cortège antifasciste unitaire populaire en tête de manifestation. Donc j'invite tous les gens à le rejoindre en tête de manif et ensuite il y aura les différentes structures et syndicats qui viendront après essayer de réactiver. Et le drame, le meurtre de Clément a révélé quelque chose pour ceux qui se sont posés, qui ont un peu regardé sur Internet, l'espèce d'offensive sur Internet que mène l'extrême droite, différentes factions de l'extrême droite, et qu'on peut recouper dans un cadre plus large de combat culturel. Et là, avec Manu, on va essayer de faire quelques idées, tracer quelques idées. On n'a pas les réponses à tout, mais sur justement le combat culturel. Et dans ce cadre-là, FPP, les médias libres et d'autres médias ont une place à prendre dans cette offensive. Donc voilà, Judith, tu veux rebondir, non?
Moi, je rebondis pas, je vous écoute. Je t'écoute, Manu, moi.
Moi, j'attends que Mohamed nous présente le début.
Donc ouais, voilà, on va faire...
C'est génial.
On s'attend tous, Mohamed.
Allez, on s'attend.
Donc, je vais faire un truc assez rapide, ça va être assez caricatural, mais il y a un des penseurs... qui est en train d'être réactualisé. Il y a une grosse édition, une grosse actualité éditoriale autour de lui. C'est un certain Antonio Gramsci. Donc Antonio Gramsci, c'était un dirigeant et intellectuel communiste du premier tiers du XXe siècle qui a passé 10 ans en prison sous les geôles de Mussolini et qu'on est mort juste 10 jours après être sorti.
Adulé en Argentine, d'ailleurs.
Hein?
Adulé en Argentine.
Ah bah Gramsci. Ça m'étonne pas, l'Argentine. L'Argentine, quand même, représente. Non, mais voilà, l'intérêt de Gramsci, c'est bon, c'est un dirigeant et un intellectuel, et il a connu le fascisme. Et l'intérêt, c'est que quand il s'est retrouvé en prison, il a eu du temps à réfléchir et à se demander comment se fait-il qu'après la révolution de 17, pourquoi en Italie, avec les différents paramètres de conflits sociaux et autres, ils ont perdu la bataille politique face au fascisme et à la réaction. Et ensuite, en travaillant, bon, il a écrit pas mal de trucs, il a mis en avant, c'est l'un des premiers penseurs de l'école marxiste à mettre en avant... la dimension culturelle au travers du concept d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire qu'à un moment il se dit comment se fait-il qu'on va dire des ouvriers ou des paysans prennent part, soutiennent la réaction ou les contre-révolutionnaires et les fascistes alors que leur intérêt économique serait normalement d'être opposé à ces gens-là. Et donc il faut s'élever, dépasser juste le cadre purement économique pour aller à un autre niveau qui est culturel. Dans les imaginaires, dans la construction de l'imaginaire, de l'inconscient collectif, c'est aussi une bataille. Ça ne tombe pas du ciel, rien ne tombe du ciel, on n'est pas des idéalistes, on est des matérialistes. Donc, à un moment, les classes dominantes peuvent créer un consensus intellectuel qui fait que des classes dominées peuvent les soutenir alors que dans leur intérêt, elles devraient être opposées. Voilà, pour aller très vite. Donc, c'est le concept d'hégémonie culturelle. Il faut, avant de prendre le pouvoir politique ou économique, avant la prise du pouvoir, il faut conquérir l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire arriver à imposer à la société, pour aller très vite, un ensemble de référents, de concepts, d'analyses qui dépassent la structure politique dans laquelle on émane, quelle qu'elle soit, et qu'elle inonde les différentes strates de la société pour générer un consensus, un ensemble d'imaginaires dans lesquels les gens puisent. Et en fait, la succession dans le XXe siècle, c'est une succession en fait, de batailles qu'on le consciemment, sans qu'on s'en rende compte, de batailles politiques, de guerres et ainsi de suite, de conflits, mais surtout aussi de batailles pour l'hégémonie culturelle. Pour aller très vite, en France, on va dire à partir des années 50 jusqu'à la fin, milieu des années 70, l'hégémonie culturelle est à gauche. L'ensemble des imaginaires, des référents politiques sont produits à gauche, et même les gens de droite, comme Raymond Aron, grand intellectuel de droite, disaient « on ne peut pas penser à l'heure actuelle sans Marx ». C'est-à-dire qu'il est opposé aux communistes, opposé à Marx, mais il sait que c'est le penseur dominant de l'époque et que même pour le contrecarrer, on est obligé de le lire, de l'étudier. Et là, c'est une victoire intellectuelle de la gauche, c'est-à-dire qu'on est, même les opposants sont obligés de se référer en contre par rapport à ses pensées. À l'heure actuelle, on peut dire voilà, que l'hégémonie culturelle est à droite et que sur certaines questions, l'hégémonie culturelle est à l'extrême droite. C'est-à-dire certaines questions politiques, culturelles, culturelles dans le sens comme l'on pense l'extrême droite, sont posées par l'extrême droite sur la question de l'immigration et ainsi de suite. Et donc, la gauche a perdu l'hégémonie culturelle, la gauche a perdu le combat politique, la gauche a perdu la guerre froide, la gauche a perdu même le combat économique, puisque maintenant, grosso modo, ce qu'on va appeler le néolibéralisme, c'est un dogme quasiment qui n'est même pas contrecarré. Voilà, la gauche gestionnaire, parlementaire, essaie les marges de manœuvre, c'est assez faible et ainsi de suite. Mais grosso modo, on ne remet pas en cause. Pour preuve, je reprends la crise de 2008 qui met par terre les économies d'Europe et des États-Unis. Les critiques les plus violentes médiatiques, parce qu'il y a des critiques violentes extra-médiatiques qui viennent de la gauche radicale et ainsi de suite, les critiques les plus violentes émanent même du camp libéral en disant oui, en fait, c'est la financiarisation, ainsi de suite, le capitalisme industriel produisait et tout ça. Donc même la critique audible qui est propagée, c'est une critique à l'intérieur même du camp capitaliste et du camp libéral. C'est ça qui est intéressant. C'est pour dire qu'en fait, la gauche n'est même pas audible et n'est même pas capable de produire une analyse qui soit... Elles existent. Il y a des penseurs, il y a des intellectuels, il y a des revues, il y a des militants. Mais les références, on va les trouver à droite ou à l'extrême droite. Et dans l'économique, ça sera dans le pendant libéral. Donc, à notre échelle, déjà, point de principe, pour ceux qui se revendiquent de la gauche, qu'elle soit radicale ou révolutionnaire, gestionnaire, parlementaire, qu'importe le terme gauche, progressiste, la défense de l'égalité, de la justice sociale, partir d'un point de principe, on a perdu. Parce que si on considère que non, tout va bien, ça va, moi je suis dans mon petit ghetto politique et culturel, pourquoi partir à l'offensive? Pourquoi remettre en cause certaines grilles de lecture, certains concepts qu'on considère comme ad vitam, valables et ainsi de suite? Donc nous avons perdu intellectuellement, politiquement, économiquement. Enfin voilà, ça peut être, dans certaines de nos conférences, on disait c'est anxiogène ce que vous dites. C'est dur d'entendre ça, quoi. Mais c'est dans la triste réalité.
Culturelle, hein. Aussi dans la production culturelle.
Et dans la production culturelle. Et donc, à partir du moment, comme Gramsci, il l'a perdu, voilà, le fascisme est arrivé au pouvoir, Mussolini, le PC est plié, il est en prison. Comment faire pour renouveler? Comment? Et là, c'est toutes les questions. Comment repartir à l'offensive politique et économique? Économique, grosso modo, il n'y a pas grand-chose. Les conditions, d'une acceptation d'une alternative économique sont pas là. Les gens sont pas prêts à entendre qu'il est possible de faire une alternative au capitalisme ou ainsi de suite. Politique, c'est une alternance entre gauche et droite, mais grosso modo, la gestion économique est plutôt quasi la même. C'est juste sur des... Il y a, un tampon social qui est plus à gauche, qui permet de limiter les contestations, mais pas plus. Et prioritairement, donc, c'est conquérir l'hégémonie culturelle. Pour dire déjà, pour que ce soit possible, acceptable dans la tête des gens, il peut y avoir une alternative. La complexité, quand on discute avec des gens de tout le monde, c'est non, voilà, bon, voilà, c'est chacun sa gueule, chacun sa merde, donc victoire de l'individualisme comme projet de société, et la possibilité d'une autre alternative. Et ça, c'est repartir à l'offensive culturelle. Donc, renouveler les cadres d'analyse ou repopulariser celles qui sont toujours valables, repartir à l'offensive, et dans ce cadre-là, les médias alternatifs, et pas que les médias alternatifs, doivent propager ce type, mais repartir à l'offensive. Parce qu'à l'heure actuelle, en face, c'est eux qui ont gagné, pour le moment. Espérons. Donc Manu, je pense que je vais arrêter mon monologue et m'allogorer. Tu voudrais peut-être rebondir sur le soft power.
Ah oui, bah cette question d'hégémonie culturelle et de combat culturel a été théorisée au-delà des luttes politiques. Elle est aussi dans les luttes géopolitiques notamment depuis les années 90 et 2000. Les démocrates américains, par exemple, ont théorisé la question de la guerre culturelle à travers un universitaire américain né... N-Y-E, qui a donc écrit au milieu des années 2000 un livre Soft Power, justement, le titre, le pouvoir doux. Ce livre donc, est devenu un livre de référence d'administration Obama, et notamment Hillary Clinton y a fait référence dans des discours. Donc le NE met en avant finalement le fait que les États-Unis, après l'administration Bush, ont eu une mauvaise image internationale et doivent reconquérir finalement l'international hein, par le biais de la diffusion de leur culture. Alors leur culture peut être aussi bien d'attirer des étudiants étrangers par exemple sur le sol américain. Alors l'avantage, bon, ils payent des inscriptions à des facs américaines hors de prix, ce qui permet de renflouer les facs américaines qui sont, comme les facs françaises, déficitaires. Mais ça permet aussi, finalement, de former ces étudiants et de leur donner un mode de vie américain, mode de vie qu'ils vont ensuite exporter dans leur pays, qui leur permet aussi de choisir, après ça, quand, par exemple, ils ont des positions économiques, hein, un partenariat privilégié avec les États-Unis dont ils ont appris la langue, la culture,
qu'ils ont des amis, qu'ils ont des réseaux d'étudiants, donc la stratégie d'influence au niveau étudiant, même la France, c'est certains critiques au sein de la France, c'est que avec ces politiques discriminatoires assez violentes en l'encontre des étudiants, elle se tire une balle dans le pied de l'influence et de la francophonie, c'est-à-dire que voilà, les Américains, des gens qui vont dans les grandes facs, c'est potentiellement des gens qui, au retour de leur pays, accéderont à des postes de responsabilité politique, économique et culturelle importants. Et des gens qui vont considérer les États-Unis comme leurs amis parce qu'ils les ont fondés. Donc ils n'ont plus besoin... Les Américains, avec le soft power, on n'a pas besoin d'aller dans les pays former une élite. C'est l'élite qui vient dans le pays américain ou autre, la Chine fait la même chose, pour ensuite propager l'intérêt que les États-Unis sont des amis.
C'est les États-Unis et pas que, c'est une certaine forme de représentation du pouvoir, de la diplomatie en général, qu'on peut retrouver dans la formation des cadres ou des techniciens de haut niveau. On le voit par exemple avec l'émergence d'une puissance comme le Brésil aujourd'hui, qui va envoyer avec des partenariats de plus en plus développés avec les grandes écoles d'ingénieurs françaises par exemple, des étudiants chez eux et vice versa, donc des étudiants brésiliens qui iront en France et des Français qui iront au Brésil, créer une puissance non seulement donc économique, mais aussi une mainmise sur la formation d'intellectuels, de cadres, de dirigeants, de diplomates. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à la diplomatie de Colombie sans forcément, un, être colombien, deux, c'est-à-dire en tant que chargé culturel, par exemple, à l'ambassade française en Colombie. Ça va être une forme de représentation du pouvoir, une forme de représentation de la culture en général. Et ce que tu disais, Mohamed, par exemple, sur oui, voilà, on, la gauche a perdu, etc., et l'hégémonie culturelle touche même à la critique de gauche, c'est en France en tout cas, moi à mon avis, c'est sur ce que doit être la gauche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grille de lecture actuelle sur si t'es de gauche, tu penses de telle façon ou de telle façon. En France c'est très fort, on le voit sur les questions de féminisme, on les voit sur les questions de religion, sur l'islamophobie, sur les femmes, donc les fémines, etc. On peut en reparler un peu plus largement, mais je veux dire globalement, c'est-à-dire que la défaite va envahir le discours même de gauche, à savoir si t'es de gauche, tu vas penser les luttes de classe et race ne peuvent s'articuler, que la religion de toute façon c'est de droite, donc on met à part tout un combat culturel pour le coup lié à l'immigration, etc., lié aux banlieues. Donc voilà, tu parlais de Gramsci, bon, il y a aussi Bourdieu, on peut en parler, hein, sur oui. Les héritiers, sur la façon
dont... La production de l'idéologie dominante, c'est voilà. Exactement ça, c'est comment au sein de certains cercles, voilà, c'est pas... on met un haut là tout de suite, c'est pas une théorie du complot, c'est pas des gens qui se réunissent autour d'une table et qui formalisent pendant... Dans 10 ans, il faut qu'on arrive. Vous avez des gens qui théorisent ça, je rappelle, c'est un ensemble de cercles, différentes personnes, différents mouvements, et c'est lié aussi avec des transformations économiques et de la production. Manu pourra en parler, c'est aussi la victoire idéologique du libéralisme au sein de la gauche. C'est-à-dire que le projet libéral... économique s'accompagne d'un projet politique et sociétal libéral. Et ça, il a été accepté par la gauche. Même si, sous mot couvert, il critique le projet libéral économique, le projet libéral comme société d'individus libres et maîtres de soi, de négation du collectif, le collectif est une prison pour l'individu, a été accepté par la gauche libérale. C'est, voilà, la gauche est dans la capacité...
Et même des parties de la gauche...
De l'extrême gauche. Hein, ouais, non, mais ça baigne tout. Moi, quand je dis gauche, hein, ça va du centre-gauche à l'extrême gauche la plus radicale. Parce que voilà, c'est une différence entre extra-parlementaire, parlementaire, il y a des liens et ainsi de suite. Et c'est comme là, à l'heure actuelle, on voit que les seules questions dans lesquelles la gauche arrive à se distinguer un peu de la droite, c'est sur des questions sociétales. Donc en gros, on abandonne le terrain économique et social au profit de questions sociétales. Et
Il y a une chose que j'aime bien répéter souvent, mais c'est assez flagrant. C'est Jean-Yves Le Gallou, qui était un des intellectuels, un des cadres du Front National, qu'il a quitté pour créer son propre parti, un intellectuel organique de l'extrême droite, qui, il y a quelques années, a dit « Nous avons gagné ». Et quand il disait ça, pour lui, bon, au-delà d'avoir un ego surdimensionné, c'est juste pour dire « Nous avons gagné intellectuellement ». Voilà. Après, dans la concept d'hégémonie, il faut l'articuler avec une autre position, avec un autre terme, on va dire, c'est la position dominante. On confond les deux. L'extrême droite n'est pas dominante à droite, c'est-à-dire d'un point de vue statistique, électoral, c'est pas le premier parti, c'est là, ça reste encore l'UMP qui est premier. D'un point de vue économique, c'est pas les puissances économiques de... Il n'a pas une capacité économique équivalente à celle de l'UMP. D'un point de vue militant, il a beaucoup moins de militants, d'élus que l'UMP. Donc il n'est pas dominant au sein de la sphère de l'extrême droite, mais il est sur certaines questions hégémoniques. C'est-à-dire que l'UMP est complètement tétanisée par le Front National et reprend ses thèses. Quand on voit, par exemple, le débat sur l'identité nationale à l'intérieur de l'UMP, c'est une victoire politique et culturelle de l'extrême droite. Inversement, on prend la gauche. Le PS est le parti dominant à gauche, d'un point de vue électoral, des élus, de l'argent, des représentations, des relais avec les médias, et ainsi de suite. Mais ce n'est en aucun cas le parti hégémonique à gauche. Qui peut me dire quelles sont les idées qu'a produit le Parti Socialiste qui ont influencé en dehors du Parti Socialiste? Non, rien.
Justement, la question du Parti Socialiste, c'est de ne pas produire d'idées de gauche, de ne pas produire de position de gauche, de rester sur un flou de position qui c'est, se dirait plus...
C'est pas qu'en fait ne veut pas, c'est qu'il est dans l'incapacité de le faire, parce qu'en fait il le dit pas ou il le reconnaît pas, certains intellectuels. Il y a un intellectuel que je conseille, c'est un intellectuel du Parti Socialiste, hein, donc... Non, mais il faut lire de tout pour essayer de mieux comprendre. L'intérêt de cet individu, c'est Gaël Brustier, il est prof à Sciences Po, ça a été un des conseillers pendant les primaires de Montebourg, donc voilà, vous pouvez politiquement le situer, et c'est lui qui, voilà, son dernier ouvrage, c'est « La guerre culturelle aura lieu ». Et il défend Gramsci en disant, voilà, la grosse défaite de la gauche, c'est qu'elle a abandonné le terrain culturel d'offensive et qu'il faut partir à l'offensive. Et il critique, et il fait référence à quelque chose qui a fait quand même pas mal de bruit, c'est le rapport de Terra Nova. Donc Terra Nova, c'était un petit, ce qu'on appelle un think tank, une espèce de structure qui a pour mission de produire, et qui a pondu un rapport en disant, voilà, maintenant, il faut que le PS prenne acte qu'il a abandonné les classes ouvrières et que les classes ouvrières a abandonné le PS. En gros, la classe ouvrière soit s'abstient, soit vote Front National. Et le PS, pour les années à venir, pour qu'elle gagne électoralement, doit s'appuyer sur, en gros, les centres-villes, les femmes, les immigrés, les homosexuels. En gros, une vision purement libérale, sociétale.
C'est-à-dire que la gauche, en tout cas le PS... Là-dessus, c'est de créer une bourgeoisie de gauche, en fait, ouais. C'est-à-dire de faire en sorte qu'à la fin, la gauche ne soit plus parti pris de classe.
Voilà, et abandonner totalement le parti pris de classe, voilà. Ouvrier ou untel, mais voilà. Juste des jeunes branchés intellectuels. Et
la classe bourgeoise va se répartir à droite ou à gauche selon leur fibre morale, on va dire, s'ils ont la fibre ou pas. Mais
Mais parce qu'on, bon, le rapport a fait un grand bruit. Il a été attaqué par une partie de la gauche du PS en disant c'est pas possible, on abandonne. Nous sommes des représentants, nous défendons la classe ouvrière et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la vision qu'a Terra Nova et une partie du PS de la question de classe et de la classe ouvrière. En fait, il y a un mépris de classe qui existe à gauche, et moi je dirais plus, qui existe dans toute la gauche jusqu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire que la classe ouvrière, qui était, voilà, pour aller très vite, la gauche, sa matrice tourne autour de la figure d'un quelqu'un qui va émanciper. Donc ça devait être la classe ouvrière. Après un moment, dans les années 60-70, une partie de la gauche radicale a pris au centre de ses réflexions le travailleur immigré comme étant au centre de l'oppression, de l'exploitation capitaliste et de la domination en tant que travailleur immigré. Et en fait, à chaque fois que la gauche a trouvé, s'est focalisé sur une figure qu'elle pensait être une figure révolutionnaire ou de transformation sociale, il n'y a pas eu de transformation sociale ou pas de révolution. Au lieu d'essayer de réfléchir pourquoi il n'y a pas eu de transformation sociale ou de mouvement radical, elle a méprisé, elle a considéré que c'est la faute à celui qui normalement l'aurait dû. Genre l'ouvrier ne pense qu'à avoir un pavillon, une petite voiture. Le travailleur, l'immigré, bah, il a des origines douteuses, c'est-à-dire qu'il conserve sa foi alors qu'il devrait être athée pour être émancipé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la gauche a développé un mépris de classe à l'encontre de ceux qu'ils considèrent comme étant au centre de leur question sociale. Et ça, on en parle peu. Et quand je dis la gauche, au sein de l'extrême gauche, il y a un mépris envers les classes populaires, comme tu l'as dit, par rapport... Les classes populaires se sont transformées entre la fin du 19e siècle et maintenant. C'est pas les mêmes classes populaires d'un point de vue même d'origine, entre des paysans qui avaient fait l'exode rural pour arriver dans les villes pour devenir les premiers ouvriers, qui ensuite ont fait... La classe ouvrière s'est développée. Maintenant, on a dans les quartiers où les classes populaires, on a des... Et le monde rural, on a des gens qui pour une bonne partie sont issus de l'immigration, qui ont pas donc les, qui ont d'autres paramètres et d'autres références. Certains d'entre eux sont croyants, que ce soit islam ou christianisme ou un tel, et les grilles d'analyse n'ont pas suivi. Et ce qui fait que la gauche, il suffit de voir le mépris, on entend les mêmes discours sur une certaine, qu'on entendrait dans une partie de l'extrême droite dans la bouche de certaines personnes de gauche sur la question des femmes, sur la question de l'islam, ou sur même, ouais, non, mais dans les quartiers, c'est que des petits capitalistes, ils cherchent qu'à faire leur petit business, à s'en sortir et tout. Ouais, mais pourquoi ils vont pas plus loin et dire que ça, c'est que le reflet de la victoire idéologique de la droite sur l'ensemble de la société ? Et il faudrait que les classes populaires soient épargnées par la victoire idéologique des classes populaires en disant que voilà, c'est le néolibéralisme qui a gagné, c'est l'individualisme, donc tu le retrouves de la, des dominants aux dominés. Mais non, il y a une focalisation sur les classes populaires en disant ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et repartir à l'offensive culturelle, c'est déjà dire, bah voilà, comment vous réfléchissez ? C'est que vous réfléchissez avec des concepts produits, forgés par l'ennemi de classe. Il faut le dire, il faut la, voilà, c'est comme dans une société raciste, même si on se revendique antiraciste, on n'échappe pas à certaines formes de stéréotypes et de racisme. Dans une société misogyne et patriarcale, même si on se revendique féministe, même certaines femmes, que ce soit chez les hommes, en particulier chez les hommes, mais même chez certaines femmes, il y a des réflexes qui sont le reflet de la société dans laquelle on est. Donc même dans une société misogyne et patriarcale, même si on est plus féministe et féministe, on aura à certains un moment ou un des choses qui révèlent d'un réflexe dû à l'environnement dans lequel on est. Si on part du point de principe que la gauche a perdu, donc c'est une victoire idéologique de la droite, certaines pensées, certains concepts forts qu'on utilise comme le sens commun viennent de droite. Et donc, les idées ont pénétré jusque dans la gauche. Et ne pas le nier, et le nier, c'est continuer à fournir
à leur donner des billes.
À leur donner des billes.
On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Vous êtes toujours en direct de la Gare XP sur le 106.3 FM. On est en direct jusqu'à minuit et on va s'écouter tout de suite l'Alco Charpentier de l'album Les Diamants sont éternels de 2012. On revient tout de suite après, on est avec Quartier Libre, Mohamed et Manu sur le combat culturel.
De réfléchir à un métier possible. Tu es adroit de tes mains, un métier manuel. Tout le monde te donnerait de l'ouvrage, moi le premier. Et si tu devenais charpentier ? C'est un bon métier pour un homme de couleur. Tu n'étais pas charpentier, ton papa ? Jésus était charpentier. Tout le monde t'aime bien, tu devrais en profiter.
Ok, ok. J'oscille entre le chaud et le froid. Au moins j'entends ce souvenir à mort souvent. Je sens souffrir un vivant. Je rappe souvent pour passer le temps. Prends l'argent pour meubler le temps. Le vrai moi est ailleurs mourant. J'avance fièrement mon cœur me lâchant. Ma tête fitant de son sang. Mais nique sa mère maintenant. Au pire des cas dans quelques heures. Mes proches me pleurent et m'enterrent. J'aurais privilégié mes convictions. Je pouvais pas boire leur perte. Comme la vie était un cercle. On n'a jamais été aussi proche de ma naissance. Chaque heure qui me rapproche de la tombe. Rapproche ma mère du jour où elle me remettra au monde. Qu'importe les coups que je prends. La guerre, la rue, la prend. La jalousie, la lâcheté, c'est rien. Ils sont mal putes. Mais le commerce de leur partie génitale ne me concerne pas. Depuis grand pas, rien ne vaut la sueur qui coule sur nos dos. Même pas la tête de ceux qui renseignent les cochons. Je promets de continuer à poser un parpaing sur un autre. Calme pour tuer les démons qui se cache derrière mes émotions. N'ai pas peur de voir couler le sang, je vous le dis. Mes visions sont en ciment. Je travaille à mort, ce qui souille mes vêtements honore mon corps. Parole de fils de prisonnier, crois en la véracité. Et si maintenant j'en viens ouvrir le feu, c'est avec l'humilité d'un charpentier. Nègre comme minuit, nègre comme la malédiction des jaloux qui t'ont porté enfant et qui veulent que la misère et la honte emportent tes enfants. Je te parle de ceux dont même l'ombre a un mauvais fond. Ils agissent comme si le cœur de ma mère n'était pas un fragment de diamant. J'ai été aimé, j'aurais aimé que tu l'eusses été. Pour qui tu m'as pris enculé. Je suis quelqu'un de douloureusement ordinaire. Je rendrai le mal par le mal. Parce que c'est sauvagement normal dans la rue. Je déambulais en crevant la dalle. Dormir dans un lavomatique, dans une caisse ou chez une femme. Qui peut se vanter d'avoir déjà vu mes larmes. D'avoir vu naître ma calvétie. Humblement vêtu, j'ai toujours voulu inspirer le respect ici. Jamais mettre des balles dans la vessie. Si quelques mois plus tard, je nourrissais ma famille avec un politique ici Europe.
Un guerrier n'a pas hésité à lécher le bitume pour survivre, je le big up. Aujourd'hui ils veulent lire dans mon regard, mais mes yeux sont écrits en hébreu ancien, ils n'y comprennent rien. Pense à moi, pense à l'essence. Je suis doué pour prendre feu, on pousse rap la prestance, comme si le mot limite n'avait jamais eu de sens. Couple ma culture à la rue comme l'intelligence du général à la brutalité du sergent. Ma révolution est en chantier, celle d'un enculé de charpentier. Charpentier, l'alcool, ok. Viens dans ma zone, où les négros saignent des yeux comme si je leur avais prêté ma cervelle et qu'ils ne supportaient pas de souffrir ce que c'est. Moi, bouger pour faire connaître mon travail, c'est ce que je fais. Mon cœur est éteint, seul brille la chaîne en or qui encercle mon coup de pite aux allures de chêne. C'est un cadeau du ciel à chaque fois que mon esprit et ses chaînes traversent la douane. Ici, les hommes serrent la main au drame pour qu'il ait pitié, ne s'acharne pas trop chez leurs gamins. Mais ces chaînes de l'âme transpercent quand même la paume de leurs mains. Ma mère et la tienne pleurent pareil, leurs armes se connaissent. Nous, nos armes se font des promesses, c'est plus des satans tuer des enfants pour vendre leurs organes. Des enfants prêts à tuer pour que leur famille ait de la viande, que Dieu nous pardonne. Je relativise et m'adonne à mon travail, vois en lui mes cicatrices et mes médailles. Dans mon temple, ma case en terre battue, ne jamais vendre le secret d'autrui, le pouvoir mettre n'importe quel voleur abattu. Je m'attelle à respecter l'horaire de livraison, la commande au détail près, pour que tu t'asseyes et que tu me payes. Signez le charpentier, signez le charpentier. Okay.
On vient de s'écouter donc un extrait de l'interview qui avait eu lieu à pendant la soirée de soutien à la radio FPP à la gare XP avec les camarades de Quartier Libre. Les camarades de Quartier Libre dont vous allez à la rentrée retrouver une émission sur FPP, donc content pour eux. Sachant que ces sons-là, donc toutes les interviews, les sons enregistrés de concerts, etc. de la soirée, vous allez les retrouver très prochainement donc sur la rubrique Frontline du www.bboyconscient.com. Vous pourrez donc réécouter les différentes interviews qui ont été faites et les sons des concerts à cet endroit-là. On voulait aussi signaler donc la parution assez récente d'un documentaire d'un camarade qui s'intitule « Le peuple veut la chute du système en 5 de la révolution tunisienne ». Donc pour le petit pitch, c'est tourné et monté en mars-avril 2013. C'est un documentaire donc disponible librement et gratuitement sur le site ciné2000.org. Il part à la rencontre donc ce documentaire de diverses composantes du mouvement anti-autoritaire tunisien, portant les paroles de groupes organisés et d'individus. Il y a le mouvement de désobéissance, la lutte contre le Forum social mondial, des activistes de rue ou des syndicalistes de base, mutuelle agricole, un projet culturel autogéré, etc. Donc il pose un regard sur le développement d'idées et de pratiques autogestionnaires au cœur du processus révolutionnaire en Tunisie. Il se veut être un outil et peut-être une arme pour construire la solidarité internationale et renforcer le mouvement d'émancipation mondiale, dont l'un des actes fondateurs fut le soulèvement de Gafsa en 2008. Un documentaire d'une heure 11 minutes de Matouf Tarlacréa, qui est donc disponible sur le site ciné2000.org, libre et gratuit. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Nous, on l'a pas vu, mais on sait qu'il est...
Si, moi, je l'ai vu. Moi.
Ah, si, il l'a vu.
Ouais, je l'ai vu. Non, mais
c'est vrai. Ça, on l'a pas vu, ça le fait pas. La sincérité qui parle trop, tu sais.
C'est ça.
On vous invite donc à regarder ce documentaire qui a l'air de pouvoir nourrir un peu toutes les constructions et les pensées qui fourmillent ces derniers mois, notamment... pour les auditeurs de Frontline, j'en suis sûr.
C'est sûr. Ouais.
C'est sûr.
C'est confirmé. Je reçois des textos en direct.
Ah, moi, j'ai bon espoir en nos auditeurs et nos auditrices. On s'écoute un petit son, il me paraît.
On va finir avec ça.
On va
c'est
finir
la fin
avec
de
ça, d'ailleurs.
L'émission juste demain, c'est-à-dire ce samedi 13, y a Zep en concert au parc Eol, c'est à Stalingrad. À côté de Stalingrad, là. D'ailleurs, je crois que c'est juste derrière les anciens locaux d'FPP, qui était rue d'Aubervilliers.
Enfin, voilà, il y a un concert. Parc Eol, c'est pas loin de la rotonde ?
Ouais, c'est pas loin, c'est dans le quartier.
D'accord.
Et donc voilà, il y a Zep et pas mal de groupes, donc n'hésitez pas à venir. Et il y aura un stand B-Boy conscient, donc voilà. N'hésitez pas à passer commande, on ne sait jamais si vous êtes chaud. Et donc voilà, et puis on va finir avec un titre de Decisive produit par Archaeologist. Le morceau c'est Tito Jackson, c'est extrait de la D-Arc Tape. Et donc voilà, franchement, des gars de Toronto, en ce moment ça job pas mal dans le coin. N'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment
n'hésitez
une grosse,
pas à visiter
grosse
Toronto,
tape. Ouais, Toronto, Detroit, et vous êtes bien niveau son, je pense. Bon, vous faites un
on vous souhaite
bon
un excellent week-end et un bon ramadan à ceux qui.
Exactement, bon ramadan à ceux qui le font. Bon week-end à tous, et on se retrouve dans 15 jours, toujours OP sur 106.3 FM. C'était Frontline. Fuck shit. Listen, I had dreams of killing them. Be the villain, I'm feeling the evil deep in my deep end. Sacrilegious, beat, bash, and pillage. Dethrone, wreak havoc on the illest. I'm so cold, frozen in a crow's nest. A born loser, scoring in my own net. Born again Christian, born again Kristoff. Trying to break a wishbone, tired of getting pissed on. Black cat, bad luck. Can't rap, can't dance, fat fuck. Laughed at by the sports team. Handgun hidden in my trench coat seams. Sloppy Joe on a lunch plate, dreaming about making ground beef out your fucked face. Meet the me you never knew about, never had a clue about what the world could do without. Tito Jackson wasn't bad like Mike. Shit, he couldn't dance like Mike. Nobody tried to see him on stage. Shit, he wasn't even Jermaine. Tito Jackson wasn't bad like Mike. Shit, he couldn't dance like Mike. Nobody tried to see him on stage. Shit, he wasn't even Jermaine. Moonwalking on Jupiter, screaming fuck the police like Gutenberg. Burn out, die young, walk fast. Riding shotgun with Suge Knight in a Pac mask. Middle finger spitting out the sunroof. Doorbell ringing with Snoop Dogg. 1, 2, 3, 4, fuck you, retards. Throwing up peace signs in a peace war. Singing to the choir, crying like a car wash. Living on the edge, dying on the sidewalk. A hot kettle with the hot metal. What's gold when you can't win a bronze medal? And what's the point if the cops get you? A goner playing the harmonica. Like the movies I watch, with no shoelaces on suicide watch. Tito Jackson wasn't bad like Mike. Shit, he couldn't dance like Mike. Nobody tried to see him on stage. Shit, he wasn't even Jermaine. Tito Jackson wasn't bad like Mike. Shit, he couldn't dance like Mike. Tried to see him on stage. Shit, he wasn't even Jermaine. Poor Tito.
Opposite of a winner.
He would do stuff to irritate me, like people like drink all the coke. When I go to the hamburger store and we get a hamburger, we're sharing this meal. Like we get a hamburger and a coke, you know, I'll split the hamburger in half. I have my half, he have his half. I go to get soda, he drunk all the soda. You're something else.
Acá Don Kassem, 1492 Army, 1492 para Frontline, yeah, 106.3 FM.
Nos couleurs, nos numéros de département, notre identité internationale, nos sentiments, nos papiers, nos codes, nos quartiers sales, la résistance, le rap, notre culture musicale.
leur garde du corps, leur motard, leur voiture, leur costard sur mesure, remplis soir et parure, leur coiffure, leur sale gueule, leur lifting, leur famille consanguine, respectable et tranquille.
Leur colonie, leurs gendarmes et leurs crapauds, leurs banques, leurs oligarchies et leurs bobos, leur capital et leur tête décapitée, leur démagogie, leur crime contre l'humanité.
Nos complets, nos piquettes, nos cocktails, nos bouteilles, nos boulettes, nos barrettes et galettes de soumets, nos blessures, nos traumatismes, nos sutures, nos lyriques, artistes, cicatrices qui suppurent. Qui veut du rap lourd, qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle. Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front, on a rejoint, lève-le-moi, monte le son. Qui veut du rap lourd, qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle. Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front, on a rejoint, lève-le-moi, monte le son. Notre mauvaise humeur, notre majeur, notre label, notre labeur, nos mix et nos masters, playlists pour casseurs, nos cris et nos douleurs, nos bannières aux couleurs de la guerre.
Leur oppression, leur haine, la rage, leurs faf, leurs flics qui veulent que l'on dégage. Leur prison, leur port, leur centre de rétention, leur charter à l'aéroport, un climat sous tension.
Leur morale, leur philosophie, leurs armes et leurs profits, les œuvres d'art aussi, les comptes en Helvétie, les comptes rendus précis, des filiales, des grossistes, des marches qui négocient.
Notre mémoire, nos disparus, nos morts, nos luttes, notre béton, nos murs, nos quartiers nord, nos larmes, nos histoires et nos révoltes, nos pays d'origine, notre classe sociale, notre riposte.
Qui veut du rap lourd, qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle. Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front, on a rejoint, lève-le-moi, monte le son. Qui veut du rap lourd, qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle. Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front, on a rejoint, lève-le-moi, monte le son.
Notre langage, notre accent de banlieue, nos mots, notre fierté, le vécu des plus vieux. Nos cités, nos blocs, nos dalles, nos rues, notre folklore, nos balcons, nos étages et nos avenues.
Leur arrogance, leur potence quotidienne, leur méfiance, leurs enfances habituelles, leur contrôle, leur pratique pathétique, leur puissance de nuisance et jeu gros hiérarchique.
La République mépris, l'hostilité, leur justice, leur politique d'austérité, leur France, le marine, leur droit de l'homme blanc, leur armée, leur marine, leur impérialisme, leur Occident.
Nos rives, nos gros sons, terrain vague défoncé, l'asphalte bien poussé, nos sorties annoncées, pensées plus étancées, écrites puis produites comme écrit qu'à lancer.
Qui veut du rap lourd,
qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle.
Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front,
on a rejoint, lève-le-moi, monte le son.
Qui veut du rap lourd,
qui a la dalle, qui veut la guerre, qui paye sa bière après le freestyle.
Bordel,
bordel,
qui sur la ligne de front,
on a rejoint, lève-le-moi, monte le son.
Soy artista en primera línea,
stay militant in the jungle.
Artiste en première ligne,
militant.
Pas de retour en arrière, en clair, il s'agit de rapper.
Soy artista en primera línea,
stay militant in the jungle.
Artiste en première ligne,
militant.
C'est la guerre des nerfs et j'ai choisi mon camp.
Frontline 106.3.